France Culture.
Il est 5 heures de l'après-midi et devant la porte de la caserne où nous sommes en ce moment se trouve, vient d'être hissé, un immense panneau tricolore qui porte ces mots « Légion des volontaires français contre le bolchevisme ».
Reportage de la radiodiffusion française, Versailles, août 1941.
Il y a des massifs de plantes vertes qui l'entourent. On a fait toute une petite décoration pour accueillir avec honneur les volontaires qui arrivent nombreux maintenant, répondant à leurs convocations individuelles. Nous les voyons sans cesse arriver. Il y a des jeunes gens, des hommes, des officiers, des aviateurs, déjà ou encore en uniforme. Toutes les classes de la société semblent être représentées. C'est d'ailleurs très beau de voir ces hommes de tous les âges qui acceptent de leur plein gré, volontairement, et certains, et même beaucoup, je crois, avec enthousiasme, de subir ainsi, quel que soit leur âge, la discipline de l'armée et de partir vers ce front lointain où ils feront flotter enfin le drapeau français. Je vais, si vous le voulez bien, m'approcher d'un groupe d'hommes. J'en aperçois un grand, là, vêtu de bleu, qui porte une brochette de décoration impressionnante et dont le regard plus autoritaire que celui de ses voisins l'impose déjà à leur attention et l'impose à notre attention aussi. Dites-moi, monsieur, quelles sont ces décorations que vous portez ?
Militaire, Croix-de-Guerre de France, militaire 1914-18, Croix-de-Guerre des Théories. Ensuite, différentes médailles commémoratives de campagne, médaille coloniale, chevalier Louis Samalawi.
C'est-à-dire que vous avez combattu pendant la guerre 39-40 ?
J'ai combattu pendant la guerre 39-40. J'ai été démobilisé quelques jours avant l'armistice, d'ailleurs, comme père de famille nombreuse. Je suis père de 5 enfants.
Et vous partez quand même, mais c'est magnifique, ça.
Par contre, volontaire. Évidemment.
Pouvez-vous nous dire pourquoi vous partez ?
Pourquoi ? Pour que mes enfants aient une existence un petit peu meilleure que celle que j'ai eue, premièrement. Puis deuxièmement, j'estime que si on veut avoir l'estime de nos ennemis d'hier, il faut leur faire voir que nous sommes capables de nous battre aussi bien que lorsque nous serons bien commandés.
C'est magnifique. Je crois que voilà quelqu'un qui a très bien parlé, n'est-ce pas ? Vous êtes tous d'accord ?
Bénédicte Vergès-Chaignon, historienne.
Voilà des hommes qui sont des Français, qui revêtent un uniforme allemand, qui vont être intégrés à l'armée allemande, en utiliser bien les grades, les mots, les codes, et qui ne relèvent en même temps de rien d'officiel en France. Au fond, la LVF est une association qui sera ultérieurement reconnue d'utilité publique. Ce que je trouve assez bizarre. Des hommes pour lesquels le gouvernement du maréchal Pétain a dû revenir sur la loi qui interdisait aux Français d'aller combattre en dehors de la France. Une loi qui a été prise contre les gaullistes et qui est là levée pour permettre de se battre aux côtés des Allemands. Donc tout ça est exorbitant et légèrement bizarre, et le deviendra encore plus, si c'est possible de l'être encore plus, avec l'avènement de la Waffen-SS française.
René Lannée, Pierre Langlade, Rabat Lancry, Henri Lantin, André Demessin, Pierre Bousquet, Larbi Ben Abdallah, André Dufraisse, Lucien Larivière.
Les ultras de la collaboration. Épisode 2, à l'Est, sous l'uniforme allemand. Une série documentaire de Jean Bulot, réalisée par Gaël Gillon. Lacroix, Fenet, Augier, Dourou. Par milliers, des noms fixés à des adresses, à des numéros de matricule, à des dates d'engagement, à des codes d'archives. Cette liste est né de l'obstination du journaliste Philippe Dourou, fils de l'un d'eux, de ces Français qui ont porté l'uniforme allemand. Pendant 6 années, il a rassemblé, photographié, confronté et retranscrit des milliers de documents. Son travail a fait surgir des archives, l'identité de ces hommes, dont l'histoire n'avait alors retenu que quelques silhouettes.
Je pense que l'histoire est faite par des hommes, et des hommes qu'il faut désigner. On désigne les héros. Moi, j'ai toujours été très frappé par les listes de morts. Partout dans le monde, vous avez des listes de morts, ce sont des victimes. Et j'ai voulu donner des noms à ces bourreaux. J'ai voulu donner leur nom, et voilà. Et j'ai recopié de manière obsessionnelle et folle des milliers de noms. Et des listes, je crois que j'en ai à peu près 400 qui sont entre la plus importante fait 9000 noms. Elle n'est pas très fiable, d'autres font 5000 noms, c'est des listes bancaires. Il faut savoir que la LVF a détruit ses archives, pour l'essentiel. Et donc, je finis par dresser une liste où il y a 20 000 noms qui sont évalués selon les sources de 0 quand c'est vraiment une mauvaise source, à 3 quand c'est une source qui me paraît suffisante, pour affirmer que 10 000 d'entre eux ont porté un uniforme allemand.
Longtemps, ces collaborateurs en armes ont été présentés comme des aventuriers, sans idéologie et sans passé. Leur engagement aurait relevé de l'accident de parcours ou ne serait qu'un épisode marginal dans une existence de voyous à l'époque de l'occupation. Pourtant, dès lors que l'on replace leur trajectoire dans la chronologie et la géographie de la guerre, quelque chose cloche. Ces Français ont combattu sur le front de l'Est entre 1941 et 1945, notamment en Biélorussie, où plus de 600 villages ont été détruits par le feu et les balles. Lors de leur période d'entraînement et de permission, ces Français se trouvaient dans le gouvernement général en Pologne occupée, où près de 3 millions de Juifs furent exterminés pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors qui étaient ces Français soldats du Reich? Qu'ont-ils vu, entendu et raconté du monde nazi? Se sont-ils rendus coupables de crimes à l'Est? En quoi l'ouverture des archives vient-elle bouleverser notre compréhension de cette collaboration et du rôle de ces acteurs dans le génocide?
Francis André, Julien Ehano, Jacques Martin, El Mati Ben Rochon,
officier de 14-18, des colonies puis de 40, militant de l'Action française, enfant de Maurras, nationaliste et internationaliste, franciste, cagoulard, croix de feu, socialiste pacifiste, communiste doriotiste, l'ultra-collaboration a été le creuset de familles politiques françaises longtemps ennemies, mais qui, au lendemain de la défaite, ont fait route commune autour d'un même horizon nommé collaboration. Une politique portée par les hommes de Vichy et dont ils tenteront jusqu'au bout d'infléchir les choix.
Français, c'est librement que je me suis rendu à l'invitation du Führer. Je n'ai subi de sa part aucun diktat, aucune pression.
Philippe Pétain, chef de l'État français, 30 octobre 1940.
Une collaboration a été envisagée entre nos deux pays. J'en ai accepté le principe. Les modalités en seront discutées ultérieurement. C'est dans l'honneur et pour maintenir l'unité française, une unité de 10 siècles, dans le cadre d'une activité constructive du nouvel ordre européen, que j'entre aujourd'hui dans la voie de la collaboration. Cette politique est la mienne. Les ministres ne sont responsables que devant moi. C'est moi seul que l'histoire jugera.
Il faudrait peut-être préciser, parce que je pense que les Français ne s'en rendent pas compte, que la particularité française pendant la Seconde Guerre mondiale, ça a été la collaboration.
Pascal Horry, académicien, historien.
L'occupation, la défaite, beaucoup de pays l'ont connue. Que ça se traduise par, au niveau de l'État, État français, chef de cet État français, maréchal Pétain, vainqueur de 18, etc., puisse prononcer le mot. Après, il est évident que c'est un mot magique pour ceux qui sont en train de devenir ou déjà devenus avant-guerre des fascistes. Ça ne peut que leur convenir. C'est un mot magique pour ceux qui sont plutôt souciés de géopolitique. On ne va pas parler d'opportunisme, mais il y a quand même un énorme argument qui est bah, les vainqueurs maintenant, ce sont eux. Nous étions trompés, depuis le début, en croyant encore au libéralisme, en croyant aussi à la social-démocratie plutôt qu'à un socialisme autoritaire national-socialiste. Vous avez à la fois ceux qui disent « je vous l'avais bien dit », donc ils sont déjà fascistes, puis ceux qui battent leur coulpe en disant « mais tout s'effondre ». Et une partie de la gauche s'interroge. Syndicalistes, pas mal de syndicalistes, plutôt des syndicalistes anticommunistes parce que ils vivent très violemment ce qu'ils considèrent comme un entrisme communiste, peu à peu, dans le mouvement syndical. Et puis, ceux qui ont déjà rompu avec le Parti Socialiste de Blum, façon Marcel Déat. Entre ceux-là, et puis tous ceux qui n'ont pas de passé politique, très intéressant, dont on ne peut pas repérer dans les archives qu'ils avaient un engagement avant 40, évidemment, ça fait quand même beaucoup de monde qui suit le sens de l'histoire, avec sa grande hache, comme disait Perrick.
Tal Brutmann, historien.
La différence entre Vichy et ses ultra-collaborateurs, c'est que justement, eux, ils sont sur une ligne qui, idéologiquement, est proche des nazis. Alors que le régime de Vichy, c'est l'extrême droite française traditionnelle. Pétain et son entourage, ses hommes, s'inspirent de l'Action française. Donc c'est vraiment l'extrême droite française traditionnelle. Alors que Doriot, Déa, Deloncle se revendiquent d'une proximité plus ou moins affirmée avec le Troisième Reich.
Et ce qu'ils ont en commun aussi, c'est l'antisémitisme ?
Là, on touche du doigt une question qui est fondamentale, qui a longtemps été négligée ou qui n'a pas été véritablement intégrée. C'est que chez certains, l'antisémitisme est structurant. Par exemple, Deloncle, qui avant le déclenchement de la guerre était l'un des principaux responsables de ce qui a été appelé la cagoule, le comité secret d'action révolutionnaire qui voulait faire un coup d'État contre la Troisième République, qui est un authentique militant antisémite de la première heure, comme Joseph Darnand, qui lui aussi a trempé dans le complot dit de la cagoule, mais qui va se retrouver du côté de la milice. Eux, ce sont des antisémites purs et durs. Doriot ou Déa, sur leur première partie de leur parcours, quand ils sont des hommes politiques, l'un au Parti communiste Doriot, l'autre dans la gauche socialiste pacifiste Déa, ils militent même initialement contre l'antisémitisme. C'est en particulier le cas de Déa. Par contre, à partir de l'été 1940, ils vont se découvrir de véritables passions antisémites qui vont devenir centrales dans l'idéologie de leur parti, surtout au PPF, où l'antisémitisme devient un enjeu essentiel, et on le retrouve dans des courriers qui sont consultables aux archives nationales, où Doriot envoie des instructions à ses lieutenants en expliquant qu'il faut continuer à creuser la veine antisémite et qu'il ne faut pas non plus, de mémoire, oublier les francs-maçons. Donc c'est vraiment un élément qui structure ces partis à partir de l'été 1940, même si certains sont des nouveaux antisémites, ils vont en faire une exploitation forcenée et à laquelle ils croient parce que c'est vraiment, ça devient un élément central de leur programme, de leur propagande et de leurs revendications.
Radio Diffusion Française, le 18 juillet 1941, aux Veldives.
Un orchestre joue des marches allègres au pied d'une grande tribune blanche. Les drapeaux tricolores servent de fond à l'estrade centrale où en grandes lettres, trois mots se détachent. LVF, c'est-à-dire Légion des volontaires français. Des milliers de spectateurs pénètrent lentement dans l'immense enceinte du Vélodrome d'hiver. Ils ont tous répondu à l'appel de la Légion des volontaires français qui avait organisé hier soir sa première manifestation. Ouvriers, petits bourgeois, fonctionnaires, employés, industriels, commerçants, tous, ils sont venus en foule. Ils s'installent dans les tribunes, dont l'accoudoir soutient de grandes banderoles où nous lisons « Contre le bolchevisme, debout la France ». Plus loin, une autre banderole « Le bolchevisme, battu, fera l'Europe unie ». Mais les projecteurs s'allument. Le silence se fait dans la salle. Les orateurs des partis unis montent sur l'estrade.
Henri Rousseau, historien.
Donc la LVF, elle est créée quasiment tout de suite. C'est-à-dire le 22 juin 1941, les troupes allemandes envahissent l'Union soviétique. C'est la rupture du pacte germano-soviétique. Et c'est un tournant, finalement, majeur de la guerre. Et là, ce qui se passe en France, comme ça se passe d'ailleurs dans beaucoup d'autres pays européens occupés par les nazis, vous allez avoir une sorte de mouvement de soutien. Et donc l'idée de la LVF, Légion des volontaires français contre le bolchevisme, je mets l'expression entre guillemets parce que c'est l'expression nazie, donc on est déjà dans la dénomination même de cette organisation, à la fois dans du militaire, c'est une légion qui va combattre, ce sont des combattants, ce seront des combattants, et en même temps quelque chose qui est politique. qui est d'ailleurs la marque, une des marques du nazisme.
Maintenant, la parole à notre camarade Jean Boissel, chef du Front Franc. Françaises et Français, s'il fallait une préface à l'histoire du bolchevisme, lequel n'aura pu atteindre sa 25e année, nous nous contenterions, pour illustrer ce quart de siècle de crimes, de massacres et d'horreurs, nous nous contenterions, disons-nous, de modifier à peine la phrase de Danton. Du sang, encore du sang, toujours du sang. Peut-être n'est-il pas inutile d'établir, en simple diptyque, ce que représente d'espoir pour nous la Légion des volontaires français contre le bolchevisme en regard de tant de crimes accumulés. D'une part, une création juive, spécifiquement juive, avec ses Bronstein dit Trotsky, Rosenfeld dit Kamenev, Aaron Cohen dit Bellacoun en Hongrie, Léon Blum en France. D'autre part, une armée splendide qui se lève, une armée aryenne au sens le plus profond du mot, une armée magnifique et superbe dans laquelle se trouveront demain côte à côte pour combattre et terrasser la bête, les meilleurs des fils d'Europe.
Tal Brutman, historien.
On a longtemps considéré que ceux qui partaient combattre sur le front de l'Est, c'était soit, je cite, des aventuriers perdus, des repris de justice, des délinquants, des gens qui avaient aucune idéologie. Qui est des aventuriers, qui est des délinquants, c'est une évidence. Ils sont loin de constituer la majorité, loin s'en faut. Ça, c'est le premier point. Ensuite, un aventurier ou un délinquant a le droit lui-même d'avoir une idéologie, ce qui est le cas pour un très grand nombre d'entre eux. Et cet élément-là, il a longtemps été sous-estimé en France. C'est ce qu'on pourrait appeler le syndrome Lacombe-Lucien, qui est un magnifique film de Louis Malle sur scénario de Patrick Modiano, où vous avez un jeune homme qui veut rallier la résistance, et son vélo crève, et finalement, il rallie la police allemande. Autrement dit, c'est juste un truc d'opportunité, il n'y a pas d'idéologie. Alors le film est remarquable, ce problème c'est que c'est pas quelque chose de véridique, d'authentique, c'est pas un travail d'historien, mais sauf que ça sert de modèle. En gros, Lacombe-Lucien, c'est le modèle de l'ultra-collaborateur. Sauf que non, c'est de la fiction, et que la réalité, elle est tout autre.
Julien Ehano, Elmati Ben Rochant, Elliot Jean,
Brunelli Dominique, 34 ans, marié et père de 3 enfants. De son engagement au sein de la LVF, il nous reste un cahier d'écolier, aujourd'hui conservé aux Archives nationales. Dans ses pages, le légionnaire Brunelli décrit les scènes marquantes et les décors traversés par les premiers volontaires français. Il évoque la caserne de la Reine à Versailles, l'attentat manqué contre Laval et Déa, le départ de Paris de nuit vers l'Est, la Pologne occupée et le camp d'instruction de Déba. C'est là-bas que Brunelli et ses frères d'armes revêtent pour la première fois l'uniforme de la Wehrmacht et apprennent l'art de la guerre allemande.
Carnet du légionnaire Dominique Brunelli. À 10h du matin, en carré, le premier bataillon est rassemblé. Les généraux de division, les officiers allemands et français arrivent sur le terrain. Nu-tête, le bras droit tendu, nous prononçons le « je le jure » qui nous lie corps et âme aux destinées de la lutte anti-bolcheviste. Notre colonel croise l'épée avec le général allemand. Nous venons de donner à l'Allemagne le meilleur de nous-mêmes, occultant les vaines rancœurs pour collaborer à l'édification de la nouvelle Europe.
Quelques mois après la création de la LVF, au moment du départ du premier contingent, Pétain va avoir cette phrase absolument incroyable en s'adressant au premier commandant de la LVF. N'oubliez pas que vous détenez une part de notre honneur militaire. Je vous avoue que quand on lit cette phrase et que, bon, le dossier Pétain, on le connaît aujourd'hui, il a été étudié dans tous les sens. Mais ce genre de déclaration, on est en pleine guerre, le pays est occupé, et le maréchal Pétain, il est encore maréchal à l'époque, il ne sera plus après la guerre. Bon, le maréchal Pétain, chef de l'État, dit à une légion de volontaires qui va revêtir l'uniforme allemand, ce sera la Wehrmacht, vous représentez quelque part l'honneur militaire français. Donc on est déjà dans quelque chose qui montre bien d'ailleurs que la séparation entre Vichy et les collaborationnistes est relativement tenue.
D'abord association née de la volonté conjointe des collaborationnistes et de l'occupant, la LVF passe rapidement sous l'aile protectrice de Vichy. Sur les images de propagande, tout l'apparat de l'État français est là. Les volontaires chantent la Marseillaise, hissent les couleurs tricolores et reçoivent des représentants du gouvernement. Ces légionnaires ne s'imaginent pas comme des mercenaires, mais comme les soldats d'une armée nouvelle. Ils ne se sentent plus vaincus, ils combattent, espèrent marcher dans Moscou et rêvent de trouver une place dans l'Europe nazie. L'illusion est fragile, mais la croyance et l'idéologie font le reste.
Carnet du légionnaire Dominique Brunelli. Dans la brume d'un soir d'automne, un long convoi attend au quai de Debat. Le premier bataillon de la LVF s'en va vers la Russie. Nous suivons la route impériale et traversons la frontière à Brest-Litovsk. Premier contact avec la terre russe. Vision de cauchemar et d'horreur. Il neige, le froid est vif. Nous arrivons vers 2h du matin. Notre train est garé près d'un convoi de prisonniers russes. Jusqu'à midi, nous devons attendre le départ. Nous descendons du train. Sur le quai, des cadavres mutilés de soldats russes s'étendent, nombreux, abandonnés. Les soviets ont dû fuir dans la déroute et la peur.
Dès les premières heures de l'opération Barbarossa, la conquête de l'Est par les nazis est une guerre d'anéantissement et de colonisation. Partout, sur le territoire soviétique occupé, les fusillades et les pendaisons se multiplient. Pour le premier contingent de Français, la guerre commence à Smolensk en novembre 1941 par une longue marche dans le froid. En décembre, ils montent au front à Djoukovo, où des centaines d'entre eux meurent. Après cette déroute, ils sont renvoyés à l'arrière. L'arrière, qui est un sas entre le front et le territoire pacifié du Troisième Reich. L'arrière, où s'installent les violences entre civils, partisans et occupants. Des violences auxquelles les Français participent, comme l'avoue Dominique Brunelli dans son cahier d'écolier.
Moins 52 à Liozno, dernière journée de notre activité hivernale, des partisans se sont infiltrés dans les bois et tentent d'attaquer le village. Les souffrances endurées sont terribles. Nous partons en expédition. L'ennemi est juché dans les arbres, terré dans les sapins, mitraillant les convois, exécutant les nôtres. Guérilla des steppes à laquelle nous sommes peu entraînés. Nous dispersons les rebelles et pendons plus de 30 prisonniers. C'est la terreur. Les lois font réfléchir les plus fanatiques. Au 11 février, le calme est revenu. À pied, nous allons sur Smolensk, où nous subirons un dernier bombardement, prêts à embarquer dans le train qui nous conduira au camp polonais de Radom.
Oui, ce que raconte Brunelli, oui, je pense que ce sont les premiers crimes. Ça se déroule sur le front. Là, on est vraiment en Russie. On est à 70 km de Moscou. Ils sont mis en première ligne pendant 3 jours.
Philippe Douroux,
4 jours.
Journaliste.
Et puis après, il faut repartir vers l'arrière parce qu'ils sont décimés. Ils se sont extrêmement mal battus. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est leur commandant qui le dit, qui décrit une pagaille extraordinaire. Et donc, ils sont en retraite. Et en retraite, Brunelli raconte des pendaisons. La pendaison était un outil de terreur dans toutes les opérations de nettoyage, vous alliez voir le maire, on l'appelait le starost, et le starost, vous lui demandiez où sont les partisans. S'il ne répondait pas, vous le pendez immédiatement à un carrefour et vous le laissez plus de 24 heures. Ça fera réfléchir les autres et vous passez au suivant. Et en général, le suivant vous donnera le... Bon, voilà, c'est une espèce de guerre expéditive, de guerre... total, de ce sont des massacres. Vraiment, il faut imaginer la guerre a des règles. La guerre a des règles. Et là, il n'y a aucune règle. La population civile, des bébés, des enfants, tout le monde peut être massacré.
Au sein de la LVF, nombreux sont d'anciens soldats de la coloniale. Parmi eux, Joseph Laporte, 49 ans, militant du PPF. Avant la LVF, il a combattu plusieurs années en Afrique équatoriale française. Il en a rapporté des photos de chasse et des oreilles coupées. Dans son dossier aux archives de la justice militaire, on trouve aussi une photo déchirée, celle d'un pendu en Russie, datée de 1942. Une autre photo de pendu apparaît également dans un carton des archives départementales du Rhône, en lien avec un soldat de la LVF, Paul Nepoko-Tchiski. Dans la déposition qui l'accompagne, ce volontaire confirme que l'homme pendu à un arbre sur la photo a été exécuté par les hommes d'Henri Lacroix. Lacroix, commandant de la LVF, dont plusieurs lettres sont conservées aux archives nationales. Dans l'une d'elles, adressée au secrétariat personnel du maréchal Pétain, le 6 mars 1942, il reconnaît avoir fait, je cite, « pendre à tour de bras toute la racaille juive qui m'est tombée sous la main ». Dès 1942, dans les cercles de l'ultra-collaboration comme à Vichy, on connaît la réalité de la guerre à l'Est.
La fameuse question qui se pose de façon récurrente et qui n'a sans doute jamais de solution claire sur que savait-on de cette politique génocidaire, elle vaut pour le monde entier, Roosevelt et compagnie, etc. Elle vaut aussi pour les collaborationnistes.
Pascal Horry, académicien, historien.
Je dirais qu'il n'y a de pires sourds que ceux qui ne veulent pas entendre, mais ça vaut pour chaque Français, pas simplement pour Robert Brasillach, etc. Et que d'autre part, il y a quand même une logique de guerre qui fait que, ne l'oublions pas, autant la France ayant signé un armistice, mais pas un traité de paix, peut considérer qu'elle se retire en partie du jeu, l'Allemagne, elle, est toujours en guerre. Ce qui veut dire qu'en particulier, le raisonnement allemand ou le raisonnement des collaborationnistes est entièrement déterminé par le fait qu'il n'y a pas une seconde sans guerre. Et à partir de ce moment-là, la guerre, ça peut conduire au génocide, tout simplement.
Tal Brutmann, qu'est-ce qu'il découvre aussi du monde nazi en Pologne, de la persécution ?
En fait, ils sont en prise directe avec les persécutions contre les Juifs telles qu'elles seront opérées. Ils sont aussi en prise directe avec la politique d'occupation allemande dans le territoire polonais contre la population polonaise. Ils sont stationnés à Deba et à Kruszyna, qui se trouve à côté de Radom. Autrement dit, ils sont à proximité d'un des plus grands ghettos du gouvernement général. Et en plus, ce camp-là, Kruszyna, a été construit par des ouvriers juifs du ghetto, qui ont été liquidés, par ailleurs, sur le site même où étaient stationnés non seulement les légionnaires français, mais tout un ensemble d'autres unités. Donc ils sont témoins directs de la persécution, de la ghettoisation. On a des témoignages où ils expliquent, en gros, Varsovie est à une centaine de kilomètres, c'est là où ils partent pour leur permission. Et on a plusieurs témoignages qui expliquent qu'ils allaient voir le ghetto. Et il y a un membre de la LVF qui, quand il est interrogé après la guerre, explique qu'il était présent à Varsovie au moment du soulèvement du ghetto de Varsovie. Donc ils savent à peu près tout de ce qui se passe. Non seulement en termes de persécution, c'est-à-dire la ghettoisation des Juifs, les violences contre les Juifs, le travail forcé, mais ils sont également témoins directs de l'assassinat. Et en plus, on sait, non seulement par différents témoignages qui existent depuis quasiment la fin de la Seconde Guerre mondiale, mais aussi par tout un ensemble de documents, qu'ils ont participé à plusieurs vagues d'assassinats de Juifs, aussi bien à Kruszyna même, et ça on retrouve. Alors le document a été produit par Raoul Hilberg dans un de ses livres, mais il y a d'autres documents qui ont été exhumés récemment qui montrent qu'ils participent directement à cette vague d'exécution et qu'ils ont participé à d'autres opérations d'assassinat.
On a mis 18 mois à obtenir ce document, qui est une description extrêmement précise et extrêmement longue. Ça fait 16 pages d'un massacre auquel les Français ont participé à Krusina, dans un camp d'instruction de la Wehrmacht en Pologne. Voilà.
Philippe Douroux, journaliste.
C'est bouleversant. Ce que tu trouves, c'est affreux, c'est épouvantable. C'est OK, les Français, non seulement ils sont allés, mais ils sont allés avec zèle. Alors que des Géorgiens refusent de faire ce boulot, les Français y vont. Donc, t'es saisi par à la fois l'horreur et puis en même temps tu dis je l'ai. Je voulais être incontestable. On peut venir contester mon livre, mais il faut avoir des arguments, faut travailler quoi. Je voulais être irréfutable. Et je pense que sur les 4 massacres que je décris, je suis irréfutable. Voilà.
L'intégralité du rapport Egger, qui établit la participation directe de Français de la LVF à une fusillade en décembre 1942 à Krusina, en Pologne occupée, fait partie des archives majeures mises au jour par le journaliste Philippe Douroux. La copie de ce rapport, conservée aux archives polonaises, comme l'ensemble des documents qu'il a rassemblés pour son livre, Philippe les a déposés au mémorial de la Shoah. C'est là-bas que j'ai donné rendez-vous aux historiennes Marie Moutier-Bitant et Pauline Anissé de la chaire d'excellence consacrée à la Shoah et aux entreprises génocidaires de l'Université de Caen. Deux spécialistes de la Shoah à l'Est qui poursuivent avec Philippe Douroux l'étude de ces Français soldats du Reich. Parmi ces archives figure aussi ce qu'on appelle la déposition Aubert. Un document dont l'original est conservé aux archives militaires de Vincennes. C'est là-bas que je l'ai découvert et lu pour la première fois, dans le cadre d'un documentaire pour Arte. À l'époque, je ne connaissais pas encore Philippe Douroux. Sa déposition a été déclassifiée en 2020. Elle fait 4 pages, elle est au milieu de nombreux autres documents sur la LVF, sans lien direct avec ce légionnaire, Roger Aubert, et sur ce qu'il évoque dans cette déposition.
Déposition de Roger Aubert. J'ai servi à la Légion des volontaires français du 6-7-42 au 28-12-42. Je n'ai cependant jamais combattu. Pendant mon séjour en Russie, j'ai été témoin des faits suivants. Toutes les expéditions punitives de la LVF donnent lieu à d'épouvantables massacres de populations paisibles et innocentes.
Ce témoignage a été recueilli à Marrakech le 20 mai 1944. Aubert y décrit plusieurs scènes de crimes. Il détaille notamment une fusillade massive en Biélorussie, du creusement des fosses jusqu'à l'exécution des victimes. Sa lecture a été un choc, un vertige aussi. Je n'avais jamais lu un tel récit raconté par un Français. C'est à ce moment-là que j'ai contacté l'historienne Marie Moutier-Bitant pour lui demander de l'aide.
Ma première réaction a été extrêmement forte parce que il faut quand même savoir que pour documenter les crimes commis à l'Est, je travaille essentiellement sur des archives en langue allemande, en langue russe. Et là, c'était tout de suite très frappant de voir un document dans ma langue maternelle, en français, documenter ces crimes. Et d'un coup, on sent vraiment une sorte de proximité, voilà, avec ces mots qui sont utilisés et qui sont la description d'une opération de massacre de masse dans un village en Biélorussie menée par des Français. Et ce qui me frappe, c'est les pratiques de tuerie qui sont les mêmes que celles employées par les troupes de la Waffen-SS allemande dans le reste du territoire biélorusse. C'est-à-dire qu'on est vraiment frappé par la stratégie meurtrière mise en place et qui interroge bien sûr sur la circulation de ces pratiques de tuerie.
En 1942, Roger Aubert est un soldat du 1er bataillon de la LVF sous les ordres d'Henri Lacroix. Le bataillon est stationné à Smorki, au sud de Krupki. En Biélorussie, Aubert et ses collégionnaires participent à la pacification et à la sécurisation des voies de communication. Ils prennent part aux opérations de représailles, aux destructions de villages et de camps de partisans.
Alors tout d'abord, Krupki se trouve au nord-est de Minsk. le long de la chaussée qui mène de Minsk à Moscou, à proximité de la ville de Borisov. Dès le 22 juin 1941, déclenchement de l'opération Barbarossa, les Russgruppenmitte, donc le groupe armé centre, déferle à travers la Biélorussie de manière extrêmement rapide. Minsk tombe à la fin du mois de juin à la suite d'un bombardement très intensif de la ville qui la détruit à plus de 80%. Et Krupki et sa région tombent très rapidement entre les mains des Allemands. Il s'installe dès lors une administration militaire, qu'on va nommer le Rückwärtiges Heeresgebiet, qui est la zone d'arrière-front, mais qui va rester comme telle. C'est-à-dire que plus à l'ouest, les territoires vont basculer au début de l'automne 41 dans l'administration civile, tandis que ces régions, en raison notamment de la proximité du front, mais par la suite par la présence très importante de partisans, vont rester sous administration militaire allemande. Donc ce sont des Ortskommandanturen, donc des commandantures locales, qui sont disséminées sur tout ce territoire de l'est de la Biélorussie. Et ensuite, dans le cadre de la lutte contre les partisans, le territoire sera divisé par secteurs d'opération, où se trouvent donc les Français dans les environs de Krupki en octobre 1942.
Pauline Anissé, historienne.
Et Krupki est assez original, si on peut dire ainsi, puisque Krupki, en fait, est une des premières villes où un ghetto pour la population juive est créé en juillet 41, le 18 juillet 41. Donc la population y est enfermée. On ne sait pas trop si c'est un ghetto qu'on dit ouvert ou un ghetto fermé. Mais en tout cas, ce qui se passe, c'est que la population juive est effectivement liquidée donc en deux grandes actions. Une première qui a lieu donc en octobre 41. En septembre 41, excusez-moi, et une autre en octobre 41. Donc en fait, il y a un rapport de l'Einsatzgruppe B qui spécifie effectivement, je crois, le 25 octobre 41, qu'il y a 962 juifs qui ont été abattus à Krupki. Donc ce qui est important aussi de comprendre, pour avoir une perspective, on va dire, générale du territoire biélorusse, c'est que les ghettos, en fait, qui sont extrêmement nombreux sur le territoire, dans la zone sous administration militaire, en fait, ces ghettos sont créés extrêmement tôt et sont liquidés également extrêmement vite. Donc Krupki, en fait, a déjà connu plusieurs phases de violence. La population civile non-juive est absolument au courant de tout ce qui s'est passé jusqu'alors. Donc cette population ensuite reste dans cette ville, reste dans cette région jusqu'à donc 42 ou 42. Là, on va entrer dans d'autres logiques de violence, avec notamment, donc c'est le moment où vraiment la lutte contre les partisans débute de manière extrêmement intensive, notamment dans cette région.
Pour comprendre le contexte de l'automne 1942, au sein de la 286e division de sécurité, à laquelle le 1er bataillon de la LVF est rattaché, il faut consulter les archives militaires allemandes conservées à Freiburg. Dans les milliers de pages scannées, il y a un document du quartier général du 29 septembre 1942 qui évoque l'organisation d'une opération dite de nettoyage au sud-ouest de Tolochin. Le document détaille les différentes unités engagées dans le dispositif. La 638e des Français y figure, aux côtés notamment de la brigade SS d'Ittwanger. Nom de l'opération, Karlsbad. C'est cette opération que Roger Aubert évoque dans sa déposition.
Le 14. Plusieurs villages suspectés d'abriter des partisans sont fouillés. De grandes quantités d'explosifs sont trouvées dans des granges. Immédiatement, des mesures de représailles sont prises. Toute la population sera passée par les armes et les habitations seront incendiées. À midi, hommes et femmes sont obligés de creuser de grandes fosses de 25 à 30 mètres de long sur 2 à 3 mètres de profondeur. Durant cette opération, ceux qui refusent de travailler ou qui essayent de se sauver sont impitoyablement abattus à coups de mitraillettes ou de fusils. Quant à ceux qui travaillent, des coups de crosse ou de bottes pleuvent sur eux pour les faire activer. Vers 4 heures de l'après-midi, les fosses sont terminées. L'exécution commence. Par groupe de 10 ou 15, les malheureux habitants passent au bord des fosses. Les mitraillettes font leur sinistre besogne. Ceux qui ne tombent pas dans les fosses sont poussés à grands coups de pied. Dès que le fond de la fosse est plein de victimes mortes ou encore vivantes, une couche de terre est envoyée et le massacre continue jusqu'à ce que chaque fosse soit comblée. De temps à autre, une grenade venait achever quelques victimes râlant et n'étant pas encore mortes. Dans une de ces sinistres fournées, une pauvre femme avec un bébé de quelques mois passe. Fusillade. La femme, mortellement touchée, tombe dans la fosse, mais lâche son enfant, non touché, à l'extérieur. Un soldat de la LVF, Berthe, de Lyon, saisit le bébé par une jambe, le soulève de terre et décharge son revolver dans la tête de l'enfant qu'il jette dans la fosse.
Est-ce que ce que raconte Roger Aubert est possible, probable ?
Oui, tout à fait. Ça rejoint exactement les descriptions de massacres habituellement décrites, soit dans les dépositions d'après-guerre de la part d'anciens SS ou soldats allemands, ou soit de témoignages qu'on a pu recueillir sur le terrain. Ça correspond en tout point à toutes les étapes d'une fusillade, du creusement de la fosse jusqu'à son comblement, et avec des rangs de victimes qui sont fusillées au bord de la tranchée.
Et ce que raconte aussi Aubert, là il donne des noms, il donne aussi des situations. Ce qu'on comprend, c'est que des légionnaires français participent aux fusillades ?
Tout à fait, ils sont directement impliqués dans les fusillades, mais tout cela n'a finalement rien d'étonnant. Je dirais qu'à l'Est, les Allemands n'ont jamais rencontré le moindre problème pour trouver des hommes volontaires pour constituer ces commandos d'exécution. Et il y a aussi cette idée pour les nazis d'impliquer le plus grand nombre. Vous voyez que là, on est vraiment sur des opérations qui sont complètement collectives. On a la liste de toutes les unités qui vont participer et ils vont finalement faire ça tous ensemble. On voit bien qu'il y a de mêmes pratiques de tuerie. Et les Français, on voit la description donc de ce que peut faire Berthe de Lyon ou les autres. Il y a un mimétisme assez surprenant dans ces actions de cruauté que l'on retrouve vraiment pour d'autres lieux de massacre avec d'autres acteurs, en fait. Ce qui est tout à fait surprenant, c'est que des personnes au parcours si différent, la culture si différente, se retrouvent à agir de concert dans le cadre de massacres. Et là, ce sont en plus des massacres de personnes biélorusses. On pourrait dire qu'ils ont en commun un antisémitisme absolument terrible. Mais là, on est encore sur un autre cas de figure. C'est qu'ils sont en train de fusiller des personnes qui sont de toute évidence pas des résistants, pas des partisans. Et d'ailleurs, Aubert le dit, je n'ai cependant jamais combattu. Donc là, on n'est pas... Il le dit lui-même, il trahit aussi cette action de la LVF. On n'est pas dans le cadre d'un combat, on est là dans le cadre de représailles.
On leur a demandé s'ils étaient volontaires pour tirer ?
Les commandos d'exécution, soit l'officier va directement nommer les personnes, en opérant généralement un roulement au sein de l'unité. Il y a des unités comme ça, je pense aux Sonderkommando 4A de Blobel, où Blobel force tout le monde à participer, c'est-à-dire même le cuisinier, même le secrétaire, le comptable, s'ils doivent à un moment donné, eux aussi, prendre un fusil et participer directement à l'exécution. Ou bien, il y a la constitution d'un commando d'exécution volontaire. Mais les cas où les personnes se sont dérobées sont extrêmement rares. Et au contraire, moi j'ai eu des cas dans les archives où il y a même des soldats de la Wehrmacht qui sont là en tant que simples spectateurs et qui vont intercéder auprès de la SS en disant « Moi aussi je veux participer, moi aussi je veux prendre mon arme et les tuer ».
Le dernier jour de l'opération, 5 femmes, 4 de plus de 40 ans, une jeune fille de 18 ans et un enfant de 9 ans sont ramassées dans un bois. Le groupe est ramené au village, l'interrogatoire commence à midi et durera jusqu'au soir, 11h. Les femmes sont battues à grands coups de ceinturon, de bottes ou brûlées avec des cigarettes sur les seins. Lorsqu'elles tombaient évanouies, un soldat envoyait sur elles des bidons d'eau glacée. N'ayant pu leur faire dire qu'elles étaient femmes de partisans, le matin à 7 heures, elles sont passées par les armes. Quant à l'enfant, mis à part, ayant reçu du chocolat et quasi mangé pour l'amadouer et l'inciter à parler, il suivit le même sort que les autres victimes, après avoir été rossé et torturé.
Les violences se poursuivent dans ces zones, jour après jour, et même après l'opération ?
Oui, absolument. En fait, les quelques personnes qui vont réussir à survivre aux fusillades ou à la pratique des villages brûlés sont souvent en fait traquées, sont souvent récupérées et là, en l'occurrence, interrogées.
Pauline Anissé, historienne.
Donc là, on voit des pratiques de torture extrêmement aussi intéressantes se déployer, où le prétendu but, c'est de faire parler, hein, comme tout acte de torture est justifié. En fait, le système torturant n'a pas pour but de faire parler, mais au contraire de réduire au silence. Et on voit bien donc que c'est des femmes qui ont survécu, qui sont aussi touchées dans leur féminité, puisqu'on s'attaque aussi à leur sein, et que en fait, concrètement, ces femmes sont torturées, mais il n'y a pas pour but en fait d'un aveu. On peut supposer que, en fait, qu'elles aient avoué ou non quoi que ce soit, dans tous les cas, elles auraient fini par être abattues par les individus en fait.
Selon un document signé par le chef de l'état-major général, le bilan de l'opération Carlsbad s'élève à 547 personnes dites tombées au combat, dont 38 femmes, 168 prisonniers fusillés et 336 personnes soumises, je cite, à un traitement spécial. Au total, 1051 victimes. Dans sa déposition, Roger Aubert évoque la date du 14 octobre pour l'une des fusillades. En recoupant cette date avec les ouvrages qui recensent les massacres et les crimes de guerre au sud de Krupki, un nom apparaît. Ukvala. Ukvala, où se dresse aujourd'hui un monument aux morts rappelant cette date du 14 octobre 1942 et le massacre. Ukvala, qui est cité dans les documents préparatoires de l'opération Carlsbad. Ukvala encore, où des inspecteurs de la commission extraordinaire soviétique sur les crimes nazis se rendent en septembre 1944. Dans les archives immenses de cette commission, un dossier est consacré à la région de Krupki. On y trouve le résumé des crimes commis par l'occupant, des témoignages de survivants, des plans pour localiser les fosses, ainsi que des listes de disparus, dont ceux du village d'Ukvala. Des noms accrochés à des dates de naissance, à des genres, à des métiers. Des civils sans armes, des femmes, des enfants, des vieillards, juifs ou non.
Il y a par exemple la famille Tiranovitch avec Nadia, Nikolai, Victoria, Kolia et Vassili. Il s'agit en fait d'une femme avec ses enfants, donc une femme née en 1908, et avec ses enfants nés en 1931, 1939, 1937. On remarque également, donc outre la présence très importante de femmes et d'enfants, qu'il s'agit exclusivement de Biélorusses, car la nationalité est mentionnée, donc ce sont tous des Biélorusses, et les principales professions qui se dégagent sont soit de simples travailleurs ou des cultivateurs.
Anna Zavadskaya, 1934, femme. Galina Zavadskaya, 1936, femme. Lyudmila Zavadskaya, 1938, femme. Valia Zavadskaya, 1940, femme. Fyodor Markovitch, 1894, homme. Raïssa Markovitch, 1914, femme. Victor Markovitch, 1936, homme. Pavel Markovitch, 1938, homme. Samuil Markovitch, 1937, homme.
Longtemps, les mots comme l'image de Roger Aubert m'ont obsédé. Alors j'ai cherché à comprendre quelle fut sa guerre et les raisons de cette confession. Pourquoi ce légionnaire accepte-t-il de raconter ses crimes, de donner des noms ? Pourquoi le faire à Marrakech en mai 1944? Aux archives de la justice militaire, un dossier à son nom apporte les premiers éléments. Après son départ de la LVF, Roger Aubert passe un temps à Vichy, puis il franchit les Pyrénées. Il rejoint ensuite l'Afrique du Nord, où les Alliés sont désormais maîtres des lieux. Il a sans doute tenté d'intégrer les rangs de l'armée des Français libres. Mais son engagement au sein de la LVF ressurgit, d'où cette déposition. La fin exacte de sa guerre reste floue. Il aurait combattu comme bombardier. Sur sa trajectoire, comme sur celle des autres légionnaires cités dans cette déposition, comme dans d'autres documents, beaucoup reste encore à faire, à comprendre.
Ces documents, déjà, permettent d'apporter des preuves, parce que déjà, la première étape, c'est d'établir les faits donc de cette participation active et à la Shoah et aux crimes de guerre menés contre les populations biélorusses dans le cadre, soi-disant, de cette guerre contre les partisans. Aussi, ça nous éclaire sur l'ampleur de la participation à l'Est de toutes les unités qui sont impliquées. Jusqu'à ce que je vous rencontre vous, Jean Bulot, puis Philippe Douroux, j'étais encore dans l'idée que la LVF n'avait participé qu'à de simples opérations contre les partisans dans les territoires occupés, mais sans débordement, en fait. Donc là, ça nous ouvre aussi toutes sortes de perspectives quant à l'identification des bourreaux, de savoir aussi qu'est-ce qui fait qu'une telle multiplicité d'acteurs adopte les mêmes pratiques, quel est le ciment entre eux, et de voir aussi la circulation de ces pratiques de violence, mais d'aller voir aussi leur profil. Donc là, on n'est plus face à des Allemands qui sont passés par les jeunesses hitlériennes, qui sont passés par le parti nazi, etc., qui ont été vraiment encadrés dans cette société totalitaire nazie. On est vraiment sur des parcours complètement différents et qu'il va falloir absolument identifier. Donc là, ça remet aussi, en quelque sorte, en question tout ce qu'on a pu dire sur l'imbrication, le système de propagande nazie, voilà, sur leurs propres troupes, mais ouais, aussi sur les autres.
Dans les mois qui suivent ce massacre, la guerre bascule. Après le débarquement allié en Afrique du Nord et la défaite de Stalingrad, la conquête du Reich a pris fin. Pour la première fois, l'armée allemande recule. Elle manque d'hommes. Les campagnes de recrutement s'intensifient. À l'été 1943, l'occupant ouvre les rangs de la Waffen-SS aux Français. Parmi les premiers engagés, on trouve des hommes comme Pierre Bousquet. Bousquet, militant d'extrême droite qui a combattu en Espagne avec les hommes de Franco et qui, durant l'année 1943, fait le choix d'Hitler. Bousquet, un Waffen-SS qui deviendra plus tard l'un des fondateurs du Front National. Reportage de la radiodiffusion française, 16 septembre 1943.
Je suis en ce moment sur le quai de la gare de l'Est. Sur le quai, beaucoup d'uniformes kaki mêlés aux chemises bleues des partis nationaux et aux uniformes felgras ou des légionnaires de l'Est. Un très important contingent de la Légion des volontaires français contre le bolchevisme part pour le front de l'Est et, coïncidence émouvante, dans ce même train part un contingent de Waffen-SS français. C'est ainsi un double symbole de la participation de la France au combat européen. Nous sommes sur le quai, parmi la foule, devant les wagons couverts d'inscriptions. Je vois « Vive la France, vive l'Europe, mort aux Juifs, vive la LVF, vive les SS ». Tous sont penchés aux fenêtres, des jeunes filles distribuent des bouquets de fleurs. Tentons maintenant de nous approcher du wagon des SS.
J'ai devant moi quatre Français, quatre Waffen-SS qui vont partir tout à l'heure. Eh bien, quelles sont vos dernières impressions ?
Mes impressions sont très bonnes. Je suis content d'aller dans les SS et j'espère combattre pour la France.
Bravo, et vous ?
Depuis 20 ans, je pense à l'Europe. J'ai pensé à l'Europe dans les rangs des JNP et actuellement, je pense même donner mon sang pour l'Europe.
C'est magnifique, vous êtes tous pleins d'un enthousiasme. J'en vois qui se penchent par la fenêtre. Il y en a un qui fait partie d'ailleurs des milices françaises. Je vais essayer de m'approcher et de leur faire dire quelques mots. Ancien collaborateur de la France au travail, Le Tellier, je dis bonjour à tous les amis du journalisme français. Je crie mort aux Juifs. Milice française, je vous le montrerai que l'Europe vaincra. Vous voyez, je ne peux même plus arriver à parler. Tous les jeunes SS sont absolument couverts de fleurs. J'en vois qui sont penchés à la portière, qui disent au revoir à des amis sur le quai. Dans quelques minutes, le train va partir.
Je vais vous décrire ce tableau qui est plus qu'émouvant. Devant ce train qui va s'ébranler dans quelques secondes, tous les SS sont penchés à la fenêtre, le bras tendu, sur le quai, la foule chante la Marseillaise de bras tendus. On ne peut pas décrire l'atmosphère qui règne ici, c'est plus que poignant. Il suffit de les écouter. Et voilà, vous entendez le train qui s'éloigne.
Bien sûr, il part pour défiler à Moscou, bien sûr, pour combattre le communisme et pour mettre le communisme à genoux. C'est pour eux, c'est le but. Il y a le communisme, le mettre à genoux, et puis il y a les sales capitalistes. Voilà, les capitalistes juifs, parce que l'argent, c'est les juifs, la banque, c'est les juifs, le commerce, c'est les juifs. Donc on va détruire les deux. On va détruire et le capitalisme et le communisme. C'est formidable. Voilà, c'est ça. Ils partent avec ça en tête. Ils en sont convaincus. C'est pas des imbéciles qui se lancent dans un combat perdu. C'est le combat, ils vont y participer et ils vont être victorieux.
Alfred Dourou, ton père, part donc en septembre 43 de France. Il combat 11 mois à peu près, ouais. 12 mois au sein de la LVF. Est-ce que tu as trouvé des crimes autour du parcours de ton père ?
Alors, je n'ai pas trouvé de crime. Alors qu'il y a un massacre auquel il a forcément participé, puisque toute la LVF y a participé, c'est Cormoran. Cormoran qui est déclenché fin mai 1944, qui se termine mi-juin 1944. Et là, c'est un immense massacre. 7000 morts, 5000 prisonniers, parce que l'Allemagne a besoin de bras pour ses usines d'armement. C'est gigantesque comme opération, gigantesque. Ils sont flattés, les Français, parce que pour une fois, on leur a alloué des camions pour se déplacer. Et dans cette opération, mon père y est. Donc je n'ai pas de doute sur le fait que mon père a participé à des massacres. Je n'ai pas trouvé un document qui l'associe directement. Mais l'important, c'est d'être complice d'un massacre de masse, d'un crime contre l'humanité, d'un crime de guerre. Alors là, il y en a des milliers, mais d'être partie prenante d'un crime contre l'humanité.
Alors qu'Alfred Dourou ne reverra Paris qu'en 1945, d'autres légionnaires de la LVF reviennent en France pour participer à la guerre contre les résistants. Devenus miliciens ou agents de la Gestapo, ces hommes, en compagnie d'autres ultras en armes, traquent les ennemis de la Révolution nationale et du nazisme. Ils se nomment André, D'Agostini, Touvier. Pendant des mois, ces Français tuent d'autres Français au nom d'une certaine idée de l'Europe et de la race. C'était les Ultras de la Collaboration, deuxième épisode, à l'Est, des Français sous l'uniforme allemand, avec Pauline Anissé, Tal Brutmann, Philippe Dourou, Marie Moutier-Bitan, Pascal Horry, Henri Rousseau, Bénédicte Vergès-Chaignon. Merci au Mémorial de la Shoah et à Martin Laurent de Tonnoir. Coordination documentaire, Emmanuel Laurentin. Chargé de programme, Marie-Yvonne Abolivier et Anaï Morales. Prise de son, Benjamin Troncin et Mathieu Tourin. Mixage, Manuel Couturier. Lecture, Evelyne Guimara. Documentation INA, Véronique Jolivet. Une série documentaire de Jean Bulot et Gaël Gillon.